Bienvenue à la French Connection, épisode 15.
Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, le retour de Pat qui était perdu dans les bois. Donc avec moi aujourd'hui, Damien, salut Damien.
Salut tout le monde.
Yes, Richer, salut.
Salut.
Vince.
Allô.
Et Nicolas, salut Nick.
Hey, salut.
Donc, cette semaine, beaucoup de stock encore une fois, beaucoup d'attaques, plein de nouvelles autour du monde. On va commencer avec une première avec Vincent à propos de Deloitte et Forrester.
Oui, salut tout le monde. Bon, dans toute la foulée dernièrement qui est survenue en fait depuis fin ou début septembre, bon, il y a Deloitte qui est tombé, Forrester est tombé. Bon, j'ai une petite note sur Forrester par la suite. Mais celui dont je veux parler, c'est Accenture, méga firme de consultants en sécurité, normalement sérieux, mais malheureusement, ils se sont fait pirater. Ils se sont fait pirater sur certains services applicatifs, entre autres, pour leur offre de services pour leur clientèle, sur les services cloud d'Amazon Web Services, des services S3. Alors, il y a des données qui ont été exposées de façon non désirée, encore une fois. Ça a été détecté par la firme UpGuard. Ça implique 4 serveurs de stockage qui ont été accessibles publiquement pendant une certaine période. Malheureusement, il y a eu du contenu qui a été compromis. Faut se rappeler qu'Accenture possède notamment et les données qui étaient publiquement accessible, concernait 94% des sociétés du Fortune Global 100, qui est c'est pas des petites compagnies, c'est des grosses compagnies, notamment avec un peu de sérieux. Et puis, les données compromises composent notamment d'identifiants, de clés de chiffrement, ainsi que des informations clients. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette attaque-là, à ce vol de données-là? Sûrement. Probablement qu'Accenture est en train là, de trouver un moyen avec ses avocats et sa clientèle de pallier à ce petit problème-là et de trouver des solutions si le pire devait arriver.
Yes, puis parlons justement de S3 et les buckets d'Amazon. En fait, tout le monde se fait avoir avec ça récemment. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais beaucoup de bug bounties. Des compagnies qui vont justement payer là, pour trouver des bugs quand quelqu'un en trouve un. Je pense que dans le dernier mois, il est sorti 2 ou 3 outils pour scanner les buckets S3 parce que tout le monde oublie ça. Même personnellement, dans un pentest récent, un S3 bucket encore avec les tokens, avec tous les mots de passe dedans, accessible à tous. Donc, la mode d'Amazon mal configurée est un mini fléau. Puis on voit ça avec cette compagnie-là. Puis il y en a eu une, voilà, peut-être un mois ou deux, avec toutes les données confidentielles de plein d'entreprises. Ça n'arrête plus, donc faites attention. Quand vous utilisez Amazon, c'est pas sécur par défaut, les configs.
Moi, j'ai une petite question à propos de ça. Je viens de le dire, Patrick, c'est une erreur de débutant. C'est quelque chose qu'on oublie. Puis je comprends qu'Amazon offre ce service-là. Et puis qu'Amazon peut se dégager de la responsabilité. Ils offrent le service avec les avantages et les inconvénients. Puis c'est aux utilisateurs, à leurs clients, de s'assurer justement d'être assez alerte pour pas faire ces oublis-là. Est-ce qu'Amazon pourrait, ou je parle de n'importe qui, n'importe quel fournisseur, là, il y aurait pas un moyen justement de que eux autres offrent un service à l'interne pour justement éviter ça, parce qu'à un certain moment donné, ça pourrait avoir un effet domino, et puis il y en a un qui se fait pirater ou démolir le comportement sur l'infrastructure devient un petit peu étrange et puis ça a un effet sur l'ensemble de l'infrastructure. Je pense pas qu'Amazon aimerait ça faire rentrer son équipe de relève à cause d'un petit problème comme ça pour justement pour pallier au problème de l'incompétence des autres. Là.
Ce qu'il faut comprendre, par exemple, Amazon, puis si vous suivez des trainings ou vous lisez leur documentation, la première phrase, puis dans les premiers facs d'explication, c'est que leur infrastructure est sécuritaire. Tout ce qui est configuration applicative, droit d'accès et autres est 100% du côté de l'utilisateur. Donc, oui, ils se déresponsabilisent de ça. Mais en même temps, j'ai dit c'est pas sécuritaire par défaut. C'est un peu, c'est pas vrai. Un S3 Bucket, quand tu le crées, par défaut, personne ne peut y accéder. Toutes les configs d'Amazon, quand tu crées ça, il n'y a pas de droit, c'est 100% denied, puis il faut que tu mettes des allows par-dessus. Fait que c'est quand même vraiment bien pensé, configuré. Le problème avec les S3 Bucket, c'est parce que c'est un domain name avec un nom spécifique qui se brute force assez facilement. Et à partir de là, vu que tu n'as pas accès à la machine par défaut, la première chose que les développeurs ou autres vont faire, c'est d'ouvrir l'accès au bucket sur Internet parce qu'ils se disent que le nom est unique puis il n'y a personne qui va le trouver. On retombe avec le concept d'obscurité encore une fois, mais ça reste que c'est de la mauvaise configuration. Même si Amazon, en arrière, aurait plein de trucs pour voir si la config est trop ouverte ou pas, mais ils peuvent pas savoir le besoin d'affaires de l'entreprise. Ils peuvent pas deviner si c'était-tu volontaire ou pas. Fait que c'est pour ça qu'ils se lancent pas du côté plus applicatif, client, config, puis qu'ils laissent ça dans leurs mains. Mais en même temps, c'est du screw-up total des entreprises qui font ça parce qu'ils ouvrent ça à tout le monde.
Ah, ben écoute, je te remercie. Tu viens de rehausser mon niveau d'incompétence au niveau des buckets S3 chez Amazon. Donc, au moins, je suis rassuré. Par défaut, la création, l'utilisation, elle est très restrictive et non permissive. Donc, c'est le client qui gère, en fait, qui gère mal son risque et sa configuration. Ça me rassure. Merci, Pat.
Pas mais trop, ça revient au fait que tu loues une infrastructure, ça te dégage pas du fait que tu dois la configurer correctement. Tu sais, il y a bien des gens qui vantent le mérite du cloud sur le fait que oui, c'est plus sécuritaire, ben, sur le fait, oui, parce que Amazon est probablement un des plus sécuritaires parce qu'ils sont tellement attaqués qu'ils ont beaucoup de mesures qui viennent lutter contre ça. Mais cela étant, quand tu loues une infrastructure, tu es quand même demeure responsable de configurer ton infrastructure comme du monde, comme c'était chez vous. Fais-tu pas déléguer ça ailleurs? Puis c'est peut-être là où les gens ont de la misère à percevoir ou une mauvaise compréhension de ce que c'est. Là.
C'est bon.
Exact. Puis... Le gros problème avec ça, c'est vraiment la compréhension, mais aussi que l'infra est souvent gérée du côté à sysadmin et autres. Donc, on se retrouve avec souvent des organisations qui n'ont pas d'équipe de sécurité ou qui n'ont pas été trainées sur la sécurité d'Amazon. Donc, sécurité par obscurité pour le cas de S3. Mais je vous dirais que 95% de tous les services d'Amazon, le concept est le même. C'est faut que tu ouvres les droits d'accès à autres. Fait que quand tu ouvres ça beaucoup trop grand, ben c'est ça que ça donne. Puis pourquoi les S3 Buckets? C'est parce que c'est juste un répertoire de fichiers accessibles publics. Donc c'est tellement facile de faire du brute force ou des attaques. C'est devenu très populaire. Puis ben on se rend compte que beaucoup de monde fait des erreurs. Donc, pour continuer, deuxième nouvelle avec Vince, le site web de Forrester. Tu veux-tu donner un petit peu plus de détails?
Oui. Mais écoutez, ça s'est passé un petit peu avant Accenture, dans la foulée de Deloitte encore, Equifax et compagnie. Bon, le site web, c'est Forrester.com qui a été la cible d'une cyberattaque. Il y a eu vol de données sur justement les études que la firme fait, les études comparatives, probablement les benchmarks et puis les tendances, etc., qui ont été volées. Et puis le vol, ce vol-là a pas été fait. En fait, j'ai l'impression que ça a été. Je sais pas si ça s'est soldé comme un vol, puisque c'est des identifiants valides. C'est les identifiants qui ont été volés, qui ont permis à un ou plusieurs intrus de les exploiter sur le site et puis pomper les données, les études, tout ce qu'ils voulaient. Toutefois, présentement, la firme ajoute qu'il est pas possible d'affirmer s'il y a des informations confidentielles ou non. Qui ont également été volés. Il manque de preuves. Je connais pas toutes les techniques, mais entre vous et moi, si c'est un identifiant qui était valide, c'était probablement pas considéré comme un vol. Alors, il y a peut-être que il y a des alertes actives qui ont détecté ça comme étant des actions tout à fait légitimes. Alors, c'est vrai qu'ils sont. Je serais un petit peu dans la merde pour savoir qu'est-ce qui a été volé. Si j'étais eux autres. Parce que là, la nouvelle est comme un petit peu pending. Moi, je ferais comme si, ça c'est bien mon opinion, je ferais comme si tout a été volé, justement pour ne pas prendre de chance.
Surtout qu'il ne faut pas oublier que ce genre de vol est de plus en plus courant. C'est oublier les attaques qui a eu lieu en 2015 contre plusieurs agences de presse dédiées à l'économie. Des sociétés qui sont avec leurs partenaires entreprises font des communiqués de presse, par exemple, pour les rentrées en bourse. Et c'est ce qu'on appelle des communiqués de presse qui ne sont pas diffusables tant qu'on ne donne pas les ordres. Et pour les pirates, ou en tout cas ceux qui veulent espionner, c'est une mine d'or pour eux. À l'époque, en 2015, il y avait eu Newswire Association, Businessweek, c'était 150 000 communiqués de presse qui ont été volés. Donc du coup, on peut estimer que voler aussi des dossiers et des études peuvent rapporter des millions à ceux qui peuvent s'en servir n'importe quel moment et juste en étudiant les chiffres proposés.
Oui, effectivement, t'as raison. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite des choses. Chez Forrester, c'est une firme qui est sérieuse. Les études sont sérieuses. Les résultats sont utilisés par d'autres grandes firmes justement pour se positionner dans le marché puis prendre des décisions d'affaires. J'espère que Forrester va donner un coup de main justement à sa clientèle pour rattraper la balle au bon et puis corriger le tir.
Yep, puis en espérant que ça soit juste en lecture, qu'il n'y ait pas eu d'accès d'écriture pour justement modifier ces recherches-là. L'impact serait tellement énorme. Donc, pour poursuivre ça, on va continuer dans la chaîne d'attaque de ces entreprises-là avec notre suite de Equifax. Damien, ça te tente-tu d'embarquer sur ce sujet-là?
Ah bah c'est simple, hein. Equifax, de toute façon je pense que Vince aussi va nous en parler après, mais Equifax c'est un sublissime feuilleton où on se dit que là il y a un paquet d'incompétences, mais c'est impressionnant. Moi c'est des petits détails qui m'ont fait entre guillemets sourire. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, John Oliver de l'émission de HBO Last Week Tonight. Ils ont voulu faire un petit clin d'œil encore une fois à Equifax en faisant quoi? En ouvrant un nouveau site dédié à la fraude informatique qu'ils ont vécu là il y a maintenant 2 mois. Ils ont ouvert equifaxfraudprevention.com sur lequel ils ont marqué: mais Equifax, vous comprenez rien, comment peut-on encore permettre d'enregistrer un nom sous votre nom d'entreprise? C'est impressionnant. Donc du coup, eux l'ont fait sous une forme comique, mais on se dit que derrière, il y a quand même pas mal de petits mystères. Alors ça, on en parlera beaucoup plus tard. Je suis en train de finir un sujet justement sur ce sujet. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on a appris là dernièrement, lors de l'audition par des sénateurs américains, de plusieurs membres de l'équipe d'Equifax, on a appris que 3 dirigeants avaient vendu quelques jours après la découverte du piratage. Alors attention, je ne parle pas quelques jours après l'annonce en septembre du piratage, mais non, ça a été quelques jours après le piratage, eh bien des 3 dirigeants ont vendu 2 millions d'actions, devinez de qui ? d'Equifax. Alors il paraît que c'est une étonnante coïncidence, que les équipes en interne n'avaient pas été prévenues de ce piratage. J'avoue que si en plus les équipes en interne, surtout les cadres, n'ont pas été alertées, là on frôle une incompétence à un point qui, moi, me fait très peur.
Puis en plus, je ne sais pas si vous en aviez parlé la dernière fois, mais Equifax a même été choisi pour faire la sécurité de IRS, qui est une organisation fédérale aux États-Unis. C'est comme la pire ironie qui existe, la compagnie qui se fait pirater de tout bord, de tout côté, qui va aller gérer la sécurité de d'autres gouvernements. Ça s'annonce très bien comme le futur.
Oui, alors pour mon dernier point pour Equifax, c'est très rapide, mais écoutez, un pirate, faut croire que un pirate en attire un autre, hein? Dans toute la foulée, les petits problèmes, les déboires d'Equifax. Le site web a été flashé pour faire des démarrages de fausses mises à jour de l'utilitaire Flash qui justement infectait les utilisateurs qui cliquaient sur les différents liens. Alors là présentement, dénommé Abrams, lui pense pas que c'est le site web d'Equifax qui lui-même a été piraté. Selon lui, il pense qu'il a été balayé dans une campagne de piratage beaucoup plus grande, et puis ça serait juste une victime collatérale de ce problème-là. Mais bon, avec j'aime bien le terme que Damien a utilisé dans tout ce très beau feuilleton Kikifax est en train de nous faire vivre. Et c'est la coïncidence est trop belle, si vous voulez mon avis. Alors,
c'est plus juste une coïncidence rendu là, je veux dire, ils se font avoir toutes les semaines.
ouais, effectivement. Alors, ça a été rapide une fois qu'ils ont su, quand ils ont eu les premières nouvelles qu'il y avait ce petit problème-là, ce gros problème-là qui était présent, ben l'équipe TI d'Equifax, en fait, ils ont encore une équipe TI, FIU, ils ont temporairement mis la page web en ligne par prudence, ce qui est très bien, c'est ça que j'aurais fait également.
Alors, juste
et en même temps, excuse Damien, ouais. En même temps, récemment, il y a eu beaucoup de publicité sur les attaques au niveau Flash, le 0D qui était sorti, qui est peut-être utilisé dans cette campagne de piratage-là. Je ne sais pas, Damien, si tu avais des infos là-dessus.
Alors justement, c'est intéressant, c'est que ce genre d'attaque est très fréquente, hein, parce que c'est pas obligatoirement l'entreprise même qui a été attaquée, mais plutôt leur régie publicitaire. Et justement, au même moment, on apprenait que Pornhub, hein, qui est quand même le numéro un mondial des sites pour adultes, qui d'ailleurs l'année dernière, hein, lors du Hackfest, avait proposé un bug bounty, eux aussi se sont retrouvés à diffuser les mêmes fausses alertes Flash. Par contre, eux, ça a duré pendant un an.
Ouch! Donc, ils s'en sont rendus compte après un an, c'est ça que tu veux dire?
Oui, pendant un an, donc il y a eu ces annonces qui sont apparues et que selon les zones, les régions, les pays, eh bien apparaissaient attention, alerte, mettez très vite à jour soit votre VLC, hein, le lecteur vidéo, soit votre Firefox, soit votre plugin Flash Player. Ça, c'est malheureusement un grand classique. Moi, j'avoue que je n'ai pas une semaine où j'ai pas une alerte qui m'est annoncée par un lecteur ou un internaute en me disant je viens de voir ça sur un site d'un magazine, d'un portail important, etc. Et pour les pirates, c'est facile en fait. Leur mission est d'avant tout d'infiltrer l'agence de communication qui, elle, a plein de publicités qu'elle diffuse un peu partout, et l'idée, c'est de pouvoir taper dans ces agences qui diffusent, en tout cas dans les grands groupes. Et là, par exemple, Pornhub s'est fait avoir, mais il y a encore quelques semaines, il y a eu des grands journaux en France ou aux États-Unis qui se sont fait piéger par ce genre d'annonces. Et surtout, c'est des annonces qu'on découvre aussi énormément dans tous les sites illégaux, hein, que ça soit pornographique, casino, ou alors tout ce qui tourne autour du streaming illégal, où bah, du coup, ça s'affiche et puis on voit d'énormes fenêtres apparaître en disant « Oh là là, il faut mettre à jour votre Windows parce qu'il y a un virus ou votre Flash. » Et puis ben, les gens qui cliquent dessus, ben, tant pis pour eux. Hein.
Oui, puis les sites de download, en plus, le bouton download, il y en a à peu près 50 dans la page parce qu'il y a 49 publicités puis un vrai bouton download. Ils utilisent ces concepts-là plus les publicités mauvaises.
C'est exactement ça.
Oui, exact. C'est quand même compliqué. Mais en même temps, le concept d'attaquer les agences publicitaires, c'est pas nouveau, mais en même temps, c'est comme du génie dans le sens que t'as pas besoin de te créer un botnet. T'as comme déjà un botnet publicitaire qui existe, qui diffuse l'info partout, qui attaque des clients de partout dans le monde. En piratant un, t'en pirates des milliers, voire des millions. Donc, c'est vraiment une des attaques dans le supply chain, si on peut dire.
Fake news publicitaire.
Très, très populaire. Là.
C'est ça.
Exact. Pour continuer dans des nouvelles de piratage, on en a eu une un peu drôle au Québec. Une petite ville, la ville de Magog, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, messieurs, s'est fait infecter par un virus informatique. Rien de spécial, ils disent qu'ils se sont pas vraiment fait voler de données. Mais le plus drôle de tout ça, c'est l'interview de la porte-parole sur TVA qui dit « Oui, on s'est fait infecter énormément. Mais nos systèmes sont complètement sécuritaires. » Je peux pas comprendre encore que nos villes sont à ce point-là déconnectées, mais en même temps, je veux dire, il y a sûrement aucune ressource sécurité à ce niveau-là. Et tout ça pour dire en même temps qu'on a, pour faire un shameless plug en même temps, cette année, on fait un fail panel au Hackfest pour le Québec fail panel pour annoncer des fails médiatiques comme ça. Et évidemment, ben, cette nouvelle-là s'est retrouvée dans notre top 20 de la conférence qui aura lieu. Si ça vous intéresse, vous viendrez voir ça. Ça risque d'être un peu drôle. Une nouvelle initiative qu'on a fait, on a ramassé depuis le dernier Hackfest, depuis le dernier novembre, la plupart des nouvelles locales, Canada, le Québec, où ce qu'il y a des fails en sécurité informatique, puis on va en faire le décompte pour expliquer le pourquoi, puis en même temps, ben, avec un petit peu d'humour au travers. Je pense qu'on a besoin de voir le nombre de compagnies qui se font pirater, même si la loi n'est pas encore passée. Puis, ça risque d'être intéressant.
C'est pas la question.
Yes, au Hackfest dans 2 semaines.
Je pense que Damien a parlé en même temps. En fait, on a parlé en même temps. Je pense que Damien avait une question.
Ah non, je venais avec une intervention passionnante en disant que certains vont rire jaune.
Oui, moi en passant, chapeau, je trouve que c'est une excellente initiative, un fail panel, justement, apprendre de ses erreurs, là, c'est très bien.
Oui, exact, puis il faut en parler, je veux dire, c'est pas parce qu'on subit une attaque, justement, que c'est nécessairement la fin, mais il faut apprendre de ça, mais il faut aussi parler du concept de diffuser l'information. Là, présentement, beaucoup au Québec, puis même au Canada, la diffusion d'une attaque est très rarement le cas versus aux États-Unis où ce qu'eux, ils ont la loi qui les oblige. La loi s'en vient ici, mais elle n'est pas encore là, donc ça va permettre d'introduire ça en même temps.
En gros, ça va être s'informer, c'est pour mieux se sécuriser.
Ah, oh, c'est parfait comme quote! Yes, prochaine nouvelle, Richer, les bitcoins à la hausse. Ah, encore une fois.
Eh oui, juste très rapidement, juste pour donner une autre belle nouvelle, une belle raison pour me faire pleurer davantage en fin de semaine. à la suite de ma perte de mes 32 bitcoins auparavant. Et donc, oui. Donc, les bitcoins sont rendus à 6 000 $ US, donc à peu près aux alentours de 7 500 $ canadiens. Puis on me disait tantôt peut-être 5 000 €, Damien, je crois. Donc en réalité, c'est énormément, énormément de sous pour les bitcoins, qui fait que ça, c'est rendu impossible. Là. Mais donc, j'aurais jamais pensé que quand je les achetais à 1 $, ça monterait aussi vite que ça. Quand ils étaient rendus à 100 $, j'étais comme, yeah. Ah, c'est extraordinaire, 100 $ chacun, je vais vendre ça. Et donc voilà, c'est.
On regrette tous le début 2010-2012 de ne pas avoir miné plus qu'il faut.
C'est exactement, exactement. Ça. Ouais. En euros, ça fait 5 000 €. Hein.
C'est fou.
Ouais.
C'est fou. Mais bon, c'était juste une petite nouvelle pour nous rendre tous désespérés des faits que ça monte si vite. Mais bon, ça peut être quand même bon, mais c'est vraiment fou.
J'avoue que moi, mon épouse, tous les jours, donc ma blonde, me regarde tous les jours en disant « Mais pourquoi tu as vendu tes bitcoins il y a quelque temps ?»
Et voilà.
Shame.
C'est la même chose que ma femme. Moi, mettons que je mentionne pas le sujet, je pense que je le dirais même pas qu'ils sont rendus à 6 000 $. Juste pour éviter le sujet. Mais bon, c'est pénible à regarder.
Mm-hmm. Ouais, je comprends la frustration. Puis j'ai même vu un tweet par rapport à ça qui levait un sujet assez intéressant par rapport le FBI aux États-Unis qui font plein d'arrestations. De black market et autres qui vont avoir justement beaucoup de bitcoin en leur possession. Puis là, le monde cherchait combien de bitcoin qu'ils en ont, puis c'était quoi la valeur. Quelqu'un a sorti le nombre 144 000 bitcoin qu'ils auraient en leur possession. Wow. Donc, fois 6 000 $, ça a l'air que l'FBI est pas mal riche ces jours-ci.
Ben, ouais. Ils vont faire comme ils ont fait dans les dernières affaires, hein. Ils vont faire des ventes aux enchères et là, ben, ils vont peut-être renflouer leurs caisses.
Ouais, exact. Ben, parlant du FBI, Damien, une petite nouvelle par rapport à ça.
Ouais, le FBI, chez nous en Europe, alors que normalement ils ont rien à y faire, hein, est en train de demander à Microsoft, qui est une entreprise américaine, justement des informations qui sont stockées hors du territoire américain. Je m'explique. Le FBI, depuis 2012, est en train d'enquêter sur plusieurs black markets et sur plusieurs de ses vendeurs. Et là, ils ont donc à première vue des informations sur l'un de ces vendeurs qu'ils ont arrêté, mais ils n'ont pas accès à ces courriers électroniques qui ont été sauvegardés par Microsoft. Oui, mais le problème, c'est que ça a été sauvegardé en Irlande. Donc du coup, le stockage étant à l'étranger, eh bien le FBI vient de réclamer à Microsoft, qui pour le moment a dit non. On veut les mails, donc du coup, ils ont fait appel à qui? Ils ont fait appel à la Haute Cour de justice américaine qui doit trancher, là, dans les semaines à venir, à savoir si, oui ou non, Microsoft, donc entreprise américaine, doit fournir les informations qu'elle a stockées à l'étranger. C'est intéressant parce que on savait déjà que les entités américaines qui se font par exemple pirater au Canada, la justice américaine peut intervenir contre ce pirate et contre ce qui a pu se passer. Et ben là, c'est intéressant de voir que maintenant, elle s'intéresse aussi aux données stockées à l'étranger pour mettre la main dessus.
Ça fait déjà un bout de temps que la justice américaine essaie de fouiller à l'extérieur de son territoire souverain. Au Canada, ce que j'en sais, c'est qu'il y a une collaboration très étroite avec la GRC. Donc, ils agissent dans un contexte où ils ont une collaboration policière entre deux états policiers différents. Je pense que, à mon avis, prendre un raccourci, parce que normalement, les notions comme Interpol ou toutes ces notions de superstructure policière mondiale qui permettent une collaboration, ils essaient de comme passer à côté puis d'aller directement aller à l'information au lieu de faire un mandat qui demande d'aller les chercher en Irlande. OK, on a autorisé, chercher les données puis ramener la donnée en sol américain à ce moment-là.
Mais je pense que le FBI a aussi très peur, c'est que les données disparaissent par X moyens. On prend juste l'exemple de ce Français qui a été arrêté il y a 3-4 semaines aux États-Unis. Hein, il venait participer au championnat du monde de la plus belle barbe, sauf qu'il s'est avéré que c'était...
Ouais. C'est un très mauvais fail de obsèque de sa part.
C'est fou ça, ouais, non, mais clairement, le mec, voilà, il était administrateur d'un shop black market, il se fait arrêter, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où il est arrêté, tous ses comptes dédiés sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et compagnie, tout a disparu, toutes les photos, les messages, etc. Donc on présume que c'est sa blonde, ou en tout cas peut-être des amis ou de la famille très très proche. Mais je pense que le FBI veut agir comme ça un petit peu en chargeant comme un gros taureau, en se disant, nous on a besoin très rapidement des informations, parce que si elles disparaissent, eh bien notre procédure elle tombe à l'eau.
Oui, ça fait du sens. Je sais pas au niveau de la loi comment ils vont gérer ça. Généralement, comme Nicolas disait, oui c'est des ententes de pays à pays. Mais ça va justement enlever les frontières où ce que les lois sont un peu différentes, puis ils vont être capables d'aller chercher certains criminels plus facilement de cette manière-là. Donc ça risque d'être intéressant. Une autre nouvelle de ton côté, Damien, par rapport au DDoS et les demandes de rançon?
Ouais, tout à fait. Alors ça, on sait que les demandes de rançon, hein, ça pullule aujourd'hui sur l'Internet, hein, selon les différentes formes. Hein. Je prends en otage votre base de données, je prends en otage votre site Internet, je fais du ransomware. Et là, et de retour, deux groupes de pirates informatiques qui avaient disparu hein, des radars depuis quelques semaines, quelques mois. Alors on a Armada Collective et Xmer Squad. Alors eux, leur but est très simple. Hein. Alors surtout pour Xmer Squad, eux ce qu'ils font c'est qu'ils contactent l'entreprise et ils disent bah voilà, pour 250€ on vous prouve que vous êtes faillible au DDoS. Alors bah bien sûr ça fonctionne à merveille hein, mais si jamais l'entreprise en face ne répond pas, eh bien c'est une demande de rançon pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars. Et ce qui est intéressant c'est que bon bien sûr comme d'habitude hein, on nous dit que ça vient des pays de l'Est, sauf que on ne dit moins c'est que malheureusement ce genre de allez on va dire de chantage se fait très simplement, et je suis très étonné encore qu'il n'y ait pas de législation, parce qu'on va quand même pas légiférer sur tout, mais au moins quelques réglementations sur ces fameux sites qu'on appelle stresseurs, qui, pour quelques dollars, quelques euros, permettent de lancer n'importe quel DDoS sur n'importe qui, et qui, ben c'est simple, face à une petite entreprise qui n'a pas les moyens ni humains, ni techniques, ni financiers, de dire, ben écoutez, je vous bloque tout, sinon, ben payez. Je pense que si on pouvait taper aussi un petit peu dans la fourmilière de ce business du DDoS, ça ferait pas de mal, parce que aujourd'hui, une entreprise qui se fait bloquer, on a eu le cas de plusieurs sociétés de regroupement, par exemple, de comptables à Singapour, qui se sont retrouvées bloquées plus de 15 jours. Quand on n'a pas les moyens de pouvoir s'en défendre, c'est quand même impressionnant, quoi.
Ouais, puis au niveau des rançons, en plus, et justement, les services en ligne de cette nature-là sont utilisés aussi juste pour quelques minutes. Ils vont envoyer un courriel disant hein, on vient de faire une attaque de 5 minutes, payez-nous tant, sinon on va en faire une méga grosse attaque. Puis officiellement, ils affrontent jamais, mais beaucoup d'entreprises vont aller payer. Donc, c'est énormément même du faux chantage.
Moi, c'est plutôt ma blonde qui me fait du chantage en disant « Mon Dieu, tu vas m'attaquer avec ta grosse.
» Grosse voiture, oui. Pour le dernier point, la Commission des libertés, c'est-tu un des talks que tu vas parler un peu au WACFest ou...
Alors, au Hackfest, non, moi, cette année, je vais parler plutôt de ce qui s'est passé avec, soi-disant, les pirates venus de la Russie qui se sont attaqués au présidentiel. Non, mais là, par contre, je vais vous parler de la Commission des libertés civiles. Aujourd'hui, c'est au Parlement européen. Et ils ont décidé, là, le 19 octobre, qu'ils souhaitaient, alors j'explique, faciliter le refus des cookies lors de la visite d'un site internet. En gros, on le voit partout hein, maintenant, quand on arrive sur un site internet, on nous demande si on accepte ou non les cookies qui vont nous servir pour un surf meilleur, mais aussi, on le sait très bien, il faut pas se leurrer, ça sert aussi de tracking pour la publicité. Et donc là, du coup, la Commission des libertés civiles du Parlement européen a dit « Eh bien, nous, maintenant, on va interdire que les sites internet vous demandent si oui ou non vous acceptez. » Alors, on ne sait pas encore véritablement comment ils vont mettre ça en place, parce que ça risque d'être galère. Hein. Alors, on se doute, les grosses entreprises, elles, voient ça d'un mauvais œil, parce que justement, le tracking leur permet pour elles de faire du business, très clairement. Mais moi, j'avoue que pour un site internet qui utilise les cookies pour, par exemple, faciliter le choix des couleurs, de l'emplacement des menus, des choix de mon internaute, si il clique perpétuellement sur non, eh bien, il va perdre un petit peu de plaisir de surf, en tout cas de visite. Bon, voilà, la Commission des libertés civiles du Parlement européen a décidé de taper sur la table, ce qui est pas mal non plus, parce que on sait très clairement qu'avec les cookies, il y a de véritables abus, en tout cas de cybersurveillance.
Tout à fait, puis c'est vraiment la mode, comme tu dis, que la plupart des sites maintenant demandent pour le cookie ou non. Je trouve ça un peu... bizarre et même inutile en certains cas. Même si tu fais non, la plupart des sites, ça va continuer puis il n'y aura pas de changement vraiment sur les sites web. Oui, ça enlève une partie du tracking, mais en même temps, il y a tellement de manières de faire du tracking sans les cookies que...
Puis moi, ce qui m'intéresserait...
À quoi bon, techniquement?
Non, mais c'est clair. Puis moi, ce qui m'intéresserait, c'est que, OK, on s'attaque aux cookies. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on s'intéresse aussi à toutes ces applications qu'on a dans nos téléphones portables et qui nous demandent, si on souhaite les accepter, un nombre d'autorisations, mais complètement farfelu. Moi, je vois mes filles, elles ont téléchargé une application. Mmh. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elles me disent tout le temps, papa, est-ce qu'on peut? Puis on regarde avec elles, justement, ce que fait l'application. Là, elles ont voulu télécharger un jeu. Le jeu demande d'accéder aux photos. Je suis désolé, il est hors de question. Pourquoi il a besoin des photos, ou en tout cas d'accéder au répertoire photo? Alors ils vont nous dire, oui, mais c'est pour faciliter le téléchargement des images, etc. Niette, c'est fou. Les photos, et puis le carnet d'adresse, et puis le GPS, non mais ça devient complètement dingue. Et je trouve que les autorités devraient s'intéresser aussi et surtout à ça, parce que quand on voit maintenant l'utilisation de nos téléphones portables et de nos tablettes qui dépassent quand même maintenant largement l'utilisation d'un navigateur et d'un ordinateur, là je m'inquiète.
Oui, clairement. Puis de l'autre côté, en plus, quand on parle de tracking, puis même d'analytique, là, de big data et autres, qu'on va regarder les sites comme LinkedIn ou Facebook, si on oublie la partie tracking, cookies et autres, ils vont analyser le nombre de temps sur la page que tu regardes ou ce que tu mets ta souris, le nombre de temps avant que tu scrolles, le mouvement de ta souris, et tout ça va déterminer de comment... tu regardes le site web, quel genre de pub que tu regardes, etc. Et ça vaut... en fait, avec cette donnée-là, ils sont capables de te tracker sur plusieurs sites parce que si tu bouges la souris d'un pattern spécifique, tu vas le faire tout le temps. C'est rendu tellement avancé que justement, le point des cookies est tellement minime et bidon qu'on n'est plus à cette étape-là du tout. Là. Donc, ça fait le tour des nouvelles. Petite shameless plug, évidemment, le Hackfest arrive à grands pas.
La poutine,
ouais. La poutine au canard de l'hôtel. Tous ceux qui n'y ont pas goûté, vous pouvez essayer ça. Quand même très bien. Donc, justement, plusieurs formations qui vont être données. Je crois qu'on en a 6 ou 7. Donc, très intéressant cette année. On a des conférenciers là, pas mal partout sur la planète. Encore une fois, les sujets ultra diversifiés, super intéressants. Le Fail Panel. Et en grande primeur, on a aussi instauré le concours de social engineering qu'on va faire pour une première fois. Donc, des participants qui vont appeler des compagnies par téléphone pour essayer d'obtenir des flags, des valeurs quelconques, des informations confidentielles, mais en même temps légales. On ne demande pas des cartes de crédit ou des choses comme ça. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Ça va être en français, en anglais. Et ça risque d'être très drôle et super le fun à voir.
Et je vais jouer!
Ah, oh, ça, j'ai bien hâte de voir ça.
Bah, surtout le bon français avec le bon accent, ça va être sympathique.
Ouais, ben les accents, ça fonctionne pour faire du social. Ça devrait être très aidant. Très hâte de voir le concours en tant que tel, voir comment ça va fonctionner, si ça, les participants vont réussir ou non. J'ai pas de doute pour toi, Damien, mais j'ai bien hâte de voir.
Je suis particulièrement impatient de jouer.
Excellent. Donc, ça fait le tour aujourd'hui. Est-ce que certains ont d'autres petits sujets à apporter? All right. Donc, merci à tous. On se revoit au prochain podcast et à la prochaine.
Salut!
Bisous, bisous!
Salut tout le monde!
Salut! We'll be right back.